Alors, au dernier cours, vous nous avez parlé de Melchisédek. Mais qui est Melchisédek? La Bible de Jérusalem et la liturgie des heures disent Melchisédek, figure énigmatique et roi mystérieux de Chalem, Jérusalem. À tout ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, sa génération. Ça ne sait pas d'où il vient. Un jour, si j'ai le temps de préparer, je voudrais faire un cours spécial sur Melchisédek. Parce que c'est quand même quelque chose de très important. Étant donné que c'était repris dans l'Épître aux Hébreux, et que saint Thomas fait un article particulier sur Melchisédek à propos du sacerdoce du Christ, il ne faut pas l'oublier. Donc ce serait bon de le voir ensemble aussi. Et puis, que la tradition dans l'Église, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Voilà ce qu'on vous dit. Et on n'y comprend rien. Et c'est vrai qu'on n'y comprend rien, c'est tout à fait d'accord. On n'y comprend rien en ce sens que ça reste une figure énigmatique, roi mystérieux de Chalem. Plusieurs pères de l'Église disent « En Melchisédek était apparu le Fils de Dieu en personne. Qu'en pensez-vous » Alors là, il y a les textes des pères de l'Église. Là aussi, je voudrais. Donc, ne craignez pas, nous reviendrons sur la question de Melchisédek, étant donné l'importance de Melchisédek. Et que, selon l'Épître aux Hébreux, vous savez bien, cette chose très étonnante, de voir que Abraham rencontre Melchisédek au moment de la victoire. Après ces événements, la parole de Yahvé advint à Abraham dans une vision en ces termes. Donc, c'est après la grande victoire vis-à-vis des rois, des quatre rois, que Abraham dit au roi de Melchisédek, j'élève ma main vers Yahvé, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Pas même un fil ou une courroie de sandales, non. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Ainsi tu ne diras pas, moi j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont mangé avec moi, Aner, Elkol et Mambré, eux prendront leur part. Ceci, c'est juste après la rencontre, après Melchisédek. C'est intéressant de voir que Abraham, ayant rencontré Melchisédek, prend les mœurs de Melchisédek. C'est-à-dire une magnanimité absolue. Je crois que c'est quand même très curieux, ça. Alors, je veux bien y revenir quelques instants maintenant, si vous voulez, mais je vous laisserai dans votre soif sur Melchisédek, et puis si j'ai le temps, un jour, je reviendrai. Melchisédek, donc chapitre 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. C'est ça qui a frappé tout le monde. Le pain et le vin, et c'est dit dans l'Ancien Testament. Alors, évidemment, ça existe déjà dans le sacrifice et dans la Pâque, le pain et le vin. Mais ça prend une... j'allais dire une autre dimension dans la Nouvelle Alliance. On ne parle pas de l'agneau pascal, on ne parle que du pain et du vin. Alors vous voyez cette chose curieuse, très curieuse, c'est le pain et le vin, l'agneau, et puis vous retrouvez le pain et le vin au terme. Si vous essayez de comprendre un peu le cheminement divin. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, il était prêtre du Dieu très haut. Donc du Dieu très haut, c'est-à-dire du véritable Dieu, de l'unique Dieu, qui avait parlé à Abraham. Donc il se retrouve ayant tous les deux des perspectives tout à fait différentes, il se retrouve comme appartenant au Dieu très haut, Abraham et Melchisédek, mais selon deux perspectives tout à fait différentes. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Alors c'est en fonction que Melchisédek bénit Abraham et Abraham donne la dîme. C'est ce que l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, reprend pour montrer la supériorité de Melchisédek sur Abraham. Une chose très importante, parce que Melchisédek est au-dessus du peuple d'Israël. C'est sûr. Et Abraham se soumet à Melchisédek. Melchisédek, c'est l'origine de toute l'ancienne alliance. C'est l'origine de tout le peuple d'Israël. Et Abraham sera donc, puisqu'il est le père dans la foi, Abraham, qui est béni de Dieu, qui a reçu une bénédiction de Dieu très particulière, une bénédiction par rapport à la fécondité, par rapport à toute sa descendance, Abraham se soumet à Melchisédek. Alors, c'est cela que l'Épître aux Hébreux, anciennement saint Paul, l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui on doit dire l'Épître aux Hébreux, puisque si vous dites saint Paul, vous dites alors les exégètes, les ronds rouges, alors dites l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? L'Épître aux Hébreux nous dit que d'Abraham sort le sacerdoce lévitique. En Abraham, le sacerdoce lévitique s'est soumis à Melchisédek. Et donc le sacerdoce lévitique a reconnu son infériorité par rapport au sacerdoce de Melchisédek. C'est très beau comme argumentation. Hein. C'est une argumentation très belle. L'Épître aux Hébreux, magnifique théologie, assez extraordinaire, difficile à bien comprendre. C'est pour ça qu'on en parle très peu, parce que c'est pas commode de faire des conférences sur l'Épître aux Hébreux. C'est pas commode du tout, parce que c'est difficile. Il y a un style difficile. Mais c'est intéressant de le suivre, hein, de suivre l'argumentation de l'Épître aux Hébreux. Alors, cette argumentation consiste à montrer la supériorité du sacerdoce de Christ sur le sacerdoce lévitique. Et c'est pour ça que les exégètes d'aujourd'hui croient que l'Épître aux Hébreux est écrite à des prêtres, chrétiens, anciens lévites, sans doute anciens du sacerdoce lévitique, qui commence à douter de la grandeur et de la supériorité du christianisme sur l'alliance ancienne. Étant donné qu'au point de vue liturgique, la liturgie ancienne avait une majesté, une grandeur beaucoup plus grande. Mais toujours une crise liturgique. Alors une peur, une crainte. Est-ce que c'est vrai? Alors l'Épître aux Hébreux est écrite pour à l'égard de ses prêtres, pour leur faire comprendre la supériorité du sacerdoce du Christ sur le sacerdoce lévitique. Et l'argumentation consiste à montrer justement que Melchisédek préfigure le sacerdoce du Christ, préfigure, annonce d'une manière énigmatique, non d'une manière cachée, le sacerdoce du Christ. Et ce sacerdoce de Melchisédek apparaît comme supérieur à Abraham, puisqu'il bénit Abraham et qu'Abraham donne la dîme. Donc si Abraham donne la dîme, ça faut qu'Abraham est inférieur à lui et reconnaît que Melchisédek a quelque chose que lui n'a pas. Il est le prêtre du Très-Haut, et Abraham n'est pas le prêtre du Très-Haut. Et que ce sacerdoce a quelque chose d'unique, c'est un sacerdoce royal. Quand Abraham se soumet à Melchisédek et reçoit la bénédiction de Melchisédek, c'est tout le sacerdoce lévitique qui se soumet au sacerdoce de Jésus. En Abraham. Pour qu'on comprenne que le sacerdoce selon l'homme Melchisédek, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Alors vous voyez, c'est vrai que ça reste une figure énigmatique. Énigmatique dans le sens qu'on ne sait pas l'origine de Melchisédek. Tout ce qu'on sait, roi de Salem, apporta du pain et du vin, il était prêtre du Très-Haut. Donc un roi prêtre, il n'y en a pas beaucoup. Dans l'histoire, un roi prêtre, et qui se présente à la fois comme roi et comme prêtre. Et comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas d'où provient Melchisédek. On ne sait pas son origine. Alors, ça reste un personnage relié au Très-Haut, prêtre du Très-Haut. Et c'est en ce sens-là que être prêtre selon l'ordre de Melchisédek veut montrer la supériorité à l'égard du sacerdoce religieux, qui est un sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique est un sacerdoce religieux. C'est-à-dire il provient de l'homme dans son attitude d'adoration à l'égard de Dieu. Alors que le sacerdoce lévitique, car le sacerdoce selon l'ordre Melchizedek, apparaît comme un sacerdoce royal directement relié à Dieu. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Donc c'est un sacerdoce d'amour. Et je crois ça très important, à comprendre ces deux aspects. Vous voyez, le sacerdoce est premièrement, normalement, historiquement religieux. Mais le sacerdoce du Fils bien-aimé est un sacerdoce d'amour. C'est donc un sacerdoce contemplatif, puisqu'il est relié directement à Dieu. Il est prêtre du Très-Haut, et relié par la foi, l'espérance et l'amour. Ce qui fait comprendre que le sacerdoce chrétien, sacerdoce contemplatif relié à l'amour, qui transmet l'amour, et qui dépasse le sacerdoce lévitique, qui est un sacerdoce religieux. Le sacerdoce chrétien, par l'amour, assume l'attitude religieuse, ne s'oppose pas, il ne faut pas mettre une dialectique d'opposition entre les deux, mais il est premièrement un sacerdoce d'amour. Et ce sacerdoce d'amour assume l'attitude religieuse. L'attitude religieuse est dépassée par le point de vue de l'amour, mais l'attitude religieuse existe. Tout sacerdoce implique une attitude religieuse. Pas purement contemplatif. C'est premièrement contemplatif, mais c'est religieux, parce que c'est médiateur entre Dieu et les hommes. Alors médiation entre Dieu et les hommes, c'est essentiellement l'aspect religieux, c'est relier l'homme à Dieu, tandis que dans l'amour c'est l'unité, c'est pas relier, c'est faire un. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est justement au-delà du sacerdoce religieux et au-delà de l'attitude proprement religieuse, sans du tout la supprimer. Alors c'est à partir de ce moment-là, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham dit au roi de Sodome, j'élève ma main vers Yahvé, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Vous voyez qu'Abraham prend tout de suite les formules de Melchisédek. Car évidemment, on fait du phénomène de mimétisme, ça va bien. Mais si je crois que l'écriture est révélée, je vois l'influence de Melchisédek sur Abraham. Abraham a reçu une mission de Dieu, et Abraham a été initié par Melchisédek. Je peux dire ça, selon le texte de la Genèse. Il a reçu une initiation. C'est beau de voir ça. Il n'y a pas que la prophétesse dans le Platon, n'est-ce pas, Diotime, il n'y a pas qu'elle, il y a ici, mais qui s'est extasié. C'est curieux de voir du reste les deux. Et vous voyez que Abraham reçoit cette initiation de Melchisédek, et puis le résultat, j'élève ma main vers Yahvé, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, pas même un fil ou une courroie de sandales, non, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Ainsi tu ne diras pas, moi j'ai enrichi Abraham. Abraham acquiert une noblesse extraordinaire grâce à Melchisédek. Il n'avait pas cette noblesse au point de départ. Il acquiert cette noblesse grâce à Melchisédek. C'est le contact avec Melchisédek qui lui donne cette noblesse et qui lui donne cette magnanimité. Oui. La noblesse du cœur, être magnanime, ne peut se comprendre que comme une conséquence de la contemplation. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Eux prendront leur part. Mais Abraham ne veut rien. Alors je crois que ça c'est quand même assez caractéristique. Le contact avec Melchisédek, le contact avec ce roi prêtre du Très-Haut, et on souligne prêtre du Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, donc le seul vrai Dieu. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Je crois que c'est assez net, donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur Melchisédek. Il faut s'intéresser à ça. C'est vraiment un leitmotiv, comme dirait saint Augustin, puisque saint Augustin dit qu'il faut saisir dans l'écriture la musique, de l'écriture, la musique du Saint-Esprit. Hein. Alors, c'est pas toujours selon... Ce que vous pensez, hein, c'est la musique du Saint-Esprit, c'est des notes particulières, très spéciales. Et alors il faut saisir cette musique du Saint-Esprit, et saisir cette musique du Saint-Esprit consiste à saisir les grands leitmotivs de toute l'Écriture. Eh bien, Melchisédek en est un.
c'est le leitmotiv du prêtre, du sacerdoce. Jusque-là, on ne l'a pas vu. Il y a la femme qui apparaît bien avant, et il y a le prêtre. Alors vous avez cette situation très particulière, Sarah, Abraham, Melchizedek. Et vous retrouverez des choses analogues par rapport à Marie dans le Nouveau Testament. C'est toujours le rôle, l'intervention du prêtre. Qu'est-ce que c'est que cette intervention du prêtre? Melchizedek, roi de Salem. Consacré au Dieu très haut qui offre le pain et le vin. Alors nous y reviendrons, hein, parce que n'oubliez pas, si je l'oublie, je ne veux pas quitter Abraham sans être revenu sur Melchizedek. Parce que c'est quand même très important, c'est sûrement une vision très importante de l'ancienne alliance, de voir Abraham, tout ce qui est rattaché à la foi d'Abraham. On ne parle pas de la foi de Melchizedek. On parle du pain et du vin. On parle de son lien de prêtre avec le prêtre. C'est intéressant parce que ça montre bien, vous voyez, que Jésus est au-delà de la foi. Comme Melchizedek. C'est un petit signe. Après ces événements, la parole de Yahvé advint à Abraham dans une vision, en ces termes. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Alors ça, c'est une nouvelle alliance qui va se faire avec Abraham. Là aussi, hein, si on avait le temps, étudier chacune de ces alliances. Elles sont successives. Hein. Elles sont toujours plus fortes. Alors, dans cette alliance, c'est le point de vue de l'espérance. Je suis ton bouclier. Donc, Dieu qui apparaît comme le bouclier. Dans l'espérance, Dieu devient notre bouclier. Ce qui nous permet d'être armé contre toutes les attaques. Et le paraclet, c'est le bouclier. Défenseur, il est le bouclier. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Donc, voyez, l'espérance. On peut dire que c'est peut-être la première fois l'espérance apparaît d'une façon plus explicite. Là aussi, petite fiche sur l'espérance à travers toute l'écriture. Hein. La naissance de l'espérance ici. Dans cette alliance, la foi est apparue directement. Foi et obéissance, hein, c'est ça que je vous ai dit. Ici, l'espérance apparaît. L'espérance apparaît sous le symbolisme du bouclier et le point de vue de la récompense. C'est toujours ça l'espérance. On s'appuie sur Dieu pour recevoir de Dieu l'héritage. La récompense. Ici, il est dit, ta récompense sera très grande. Abraham dit, Seigneur Yahvé, que me demanderas-tu? Je m'en vais sans enfant. Voilà la désolation du cœur d'Abraham. Voilà l'angoisse du cœur d'Abraham. C'est très bien que Dieu soit là. Ta récompense sera très grande, mais je m'en vais sans enfant. Ça aussi, la pauvreté du cœur d'Abraham, la désolation du cœur d'Abraham. Et Abraham dit, voici que tu m'as donné, que tu ne m'as pas donné de postérité. Et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. C'est la chose la plus désolante. On n'a pas envie de gagner, puisque c'est un autre qui va hériter. C'est pas quelqu'un de la maison. Et voici, ça reste toujours la même chose. Vous voyez, c'est choses humaines. Et à travers toutes ces choses humaines, Dieu intervient, nous donne une lumière particulière. Et je vous ai déjà dit, les héritages, c'est quelque chose de très important. Les héritages dans l'écriture. Une fiche sur l'héritage. Vrai. Parce que ça fait comprendre ce que c'est que l'espérance. Il faut prendre une fiche sur l'héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? Qu'est-ce que ça correspond? Parce que le Christ est notre héritier. C'est lui. L'héritage, notre héritage, c'est le Christ. C'est lui qui nous est donné. Donc il y a tout un grand, grand aspect qu'il faut découvrir pour aboutir à ce mystère de l'héritage plénier qui est le don de Jésus. Voici que tu ne m'as pas donné de postérité,
et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Et voici que lui advint cette parole de Yahvé. « Ce n'est pas celui-là qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui héritera de toi. » Il le fit sortir dehors et dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Voyez l'analogie, pour ceux qui s'intéressent à l'analogie. C'est intéressant, une fiche sur l'analogie. Hein. Alors prenez-la tout de suite. Pour comprendre comment, à travers la révélation, Dieu se sert d'analogie. Dieu se sert de comparaisons qui sont des analogies. Ainsi sera ta postérité. Regarde vers le ciel et compte les doigts. Alors c'est à l'égard, vous voyez, de la fécondité, à l'égard de l'amour, à l'égard de ce que représente le cœur d'un père. C'est à l'égard de ça que nous découvrons ce premier moment d'une analogie très nette. Abraham crut en Yahvé, qui lui compta comme justice. Alors vous avez là, fameuse parole, qu'il faut bien saisir. Cru en Yahvé. Donc c'est l'attachement ferme à Yahvé, c'est ça qu'il nous a montré. Un attachement absolu. Et cet attachement absolu à Yahvé, en sa parole, Dieu lui compta, Yahvé le lui compta comme justice. Alors, remarquez bien l'expression. Il lui compta comme justice. Donc Dieu reconnaît la valeur éminente de cet acte de foi, parce que par cet acte de foi, il est entièrement purifié. Puisqu'il lui compta comme justice. Abraham n'a plus de dette à l'égard de Dieu. Il lui compta comme justice. Donc il est entièrement purifié, toutes ses fautes tombent. Grâce à un acte de foi profond, nous sommes radicalement purifiés. Là aussi, c'est une chose importante. Hein. Vous voyez comme c'est riche. Hein, ça. Ce passage est extrêmement riche, au point de vue théologique, parce que tout converge. Donc là aussi, il faut essayer de comprendre le problème de la foi. Nous l'avons déjà vu, puisque nous avons vu la foi. Dès qu'il y a parole de Dieu, hein, tout de suite la foi est explicite. C'est pour ça que c'est avec Abraham et la vocation d'Abraham ça commence. Et je vous ai dit, il faut saisir tout le développement de la foi. Eh bien, à un moment donné, vous voyez que la foi est comptée comme justice. C'est la foi, la justification. Alors ça, c'est le fameux problème qui prendra toutes ses dimensions avec Luther. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est enraciné là dans l'Ancien Testament. C'est enraciné dans l'Ancien Testament. Il y a là quelque chose donc qu'il faut essayer de préciser profondément pour découvrir comment c'est dit de cette manière. Alors, le Père Hostie renvoie, c'est les lieux classiques, hein, Romains 4, 3, 9, 22, Galates 3, 6, et puis dans Saint Jean 2, 23. C'est ce lien entre la foi et la justice. Ça, c'est très, très important théologique. Là, on a une vision, une intuition théologique qui est capitale. Alors vous comprenez qu'à partir de là, on voit très bien comment Luther va dire on est sauvé non pas par les mérites, mais par la foi. Foi gratuite qui nous justifie. Fides cela, la seule foi justifie. Alors le texte n'est pas exclusif, c'est Luther qui mettra l'exclusif. Toute la différence. C'est évident que la foi est première. Du reste, c'est dit dans le canon de la messe. Hein. Ne regarde pas en fonction de nos mérites, mais en fonction de la foi de Dieu. C'est ça, c'est relié. Donc, on retrouve donc la grande idée profonde que le point de vue de la foi qui nous relie à Dieu directement, qui nous relie à la parole de Dieu, et qui nous relie à Dieu. Hein. N'oubliez pas, ne dites pas que la foi, c'est uniquement le point de vue de la parole. Dire que la foi est uniquement le point de vue de la parole, ça se dit aujourd'hui. Hein. dans une certaine perspective théologique. Alors à ce moment-là, vous supprimez le mystère. La parole est tout tendue vers Dieu. Ma foi ne me fait pas m'arrêter à la parole. Ma foi adhère au mystère de Dieu qui me parle. C'est dans ce sens-là que c'est un lien personnel. Je suis lié directement à Dieu personnellement. C'est ça qui fait comprendre qu'une théologie qui ne regarde que la parole, comme une théologie herméneutique, comme une théologie uniquement analytique, qui ne regarde que la parole, qui ne veut regarder que la parole, n'est plus une théologie. Ce n'est plus la foi. La foi, c'est vraiment un lien avec Dieu qui m'enseigne. Or, celui qui m'enseigne se sert d'une parole pour me communiquer quelque chose, pour me communiquer une vérité. Et dans l'enseignement, je ne reste pas seulement à la parole. Quand on reste uniquement à la parole, on sait très bien qu'on n'avance pas. Hein. On doit saisir l'intention profonde pour saisir le mystère. Dieu qui me parle. Dieu me parlant. Alors, la parole est un moyen par lequel j'adhère à Dieu. C'est ça la foi d'Abraham. Hein. Et substantiellement, la foi d'Abraham est la même que celle de Marie et elle est la même que la mienne et que la vôtre. Substantiellement, c'est la même foi. Et cette foi nous permet d'être justifié. La foi de comme justice, une justice divine. Hein. C'est une justice divine, ce n'est pas une justice sociale, ce n'est pas une justice commutative, distributive, ce n'est pas la vertu de justice, c'est le point de vue d'être justifié en face de Dieu. Donc le pardon des péchés, la purification de la faute, c'est ça qui est impliqué dedans. Une justice qui nous permet de retrouver Dieu, donc d'être un, hein, la réconciliation avec Dieu se fait par la foi. Alors, le texte est très fort pour montrer la foi justifie. C'est pas exclusif, hein. C'est évident que c'est une foi aimante. Donc c'est une foi informée par la charité, comme diront les théologiens. C'est pas dans le texte, hein. C'est sûr. Mais les théologiens diront que c'est une foi aimante, c'est une foi informée par la charité, que seule la foi informée par la charité justifie. Une foi non informée par la charité ne justifie pas. Donc, vous voyez, c'est l'amour et la foi. C'est les deux, c'est la charité et la foi qui justifient, c'est pas seulement la foi. Sola fide, c'est exclusif des œuvres, c'est exclusif de la charité. Alors, vous voyez, comme ça limite ce qui est montré là, comme réalisme de la foi. Quand on lit le texte, on voit bien qu'on est en face d'un réalisme de la foi qui a une signification autrement plus forte. Donc, ainsi, selon Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Croire en Dieu. Hein, ce que nous avions vu au point de vue de la foi. Croire en Dieu. Il crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Cet acte de foi, vous voyez, c'est quand même un acte libre de foi. C'est pas la foi, mais c'est il crut en Yahvé. C'est la réponse de l'homme à Dieu. Il crut en Yahvé, qui lui compta comme justice. Donc, il y a déjà un acte. Et un acte qui par lui-même est méritoire. Donc, le mérite est impliqué dans la justification. Vous voyez bien. Je suis obligé de le dire. Je ne peux pas séparer le mérite de la foi s'il s'agit d'une foi aimante. Tandis que pour Luther, il regardera la foi de l'extérieur, sans voir l'acte de foi, sans voir l'action de foi. Alors il dira la foi justifie. Tandis qu'il faut comprendre que c'est la réponse de l'homme à Dieu. Abraham crut en Yahvé. Il crut en Yahvé, donc il y a un acte de foi aimant en Dieu, et c'est cette union avec Dieu que fait la foi qui justifie. C'est parce que je suis uni à Dieu dans sa miséricorde pour moi, parce que je suis uni à Dieu qui vient à mon secours dans le Dieu sauveur, c'est le Dieu sauveur auquel Abraham croit. C'est dans ça qu'Abraham croit dans le Christ qui doit venir, parce qu'il croit dans le Dieu sauveur. Et c'est de croire en le Dieu sauveur qui justifie. parce que c'est la miséricorde du Dieu sauveur qui justifie. Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Il lui dit, « Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham dit, « Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderais ?» Vous voyez la petite incrédulité, hein ? Dans un dialogue merveilleux, on voit très bien ce bédouin, habitué à une prudence et qui a une grande prudence, et nous avons vu comment la foi avait déraciné cet homme prudent, mais ça reste. La prudence demeure, et la prudence vient mesurer son acte de foi. Et pourtant, il a cru, et ça lui était compté comme justice. « Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderais ?» Il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham lui prit tous ses animaux. Mais les oiseaux, il ne les partagea pas. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. À tous les petits détails, on voit très bien ça. C'est extraordinaire, c'est la première grande liturgie. Et elle se fait dans la lutte, il y a des rapaces. Il ne faut pas l'oublier, non, tout de suite, c'est pas facile. Jusque-là, on n'a pas dit, il n'y a pas d'offrande, tandis que là, il y a une offrande. Évidemment, ça se fait d'une façon très simple. Et très direct, hein. mais c'est quand même le point de départ de la liturgie. Et c'est dans une alliance, il faut comprendre ça. C'est dans une alliance et c'est en même temps, c'est très curieux ça, c'est pour que Abraham comprenne que la parole de Dieu est vraie, la promesse. Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. « Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderais ?» Question d'avoir. Hein. Il croit bien la parole de Dieu, mais la promesse est difficile. Hein. Vous voyez, l'épreuve de la foi, l'épreuve de l'espérance. Hein. Pourtant, Dieu a dit qu'il était le bouclier. Ta récompense sera très grande. Mais c'est la difficulté de croire en la promesse. De croire que Dieu est là et qu'il réalise en nous sa promesse. On voit bien la difficulté. Alors, il fait ce prend une génisse de 3 ans, donc Dieu lui donne un ordre. Alors, c'est la place du sacrifice. Moi, je crois qu'il faut essayer ici de saisir le premier sacrifice. Alors là encore, hein, une fiche sur le sacrifice. Il y en a beaucoup. Une fiche sur le sacrifice. Parce que c'est important de saisir à travers toute l'écriture le leitmotiv du sacrifice. Très, très important. Il faut faire ça, hein, il faut essayer de découvrir ça. Alors vous avez là le premier sacrifice qu'on a vu, vous allez me dire, ah mais c'est un bel, c'est sûr, c'est un bel. C'est le premier sacrifice. Mais au point de vue de la nouvelle alliance, c'est le premier. À l'intérieur de la nouvelle alliance, c'est le premier. Abel, c'était la spontanéité de l'homme qui offre à Dieu un sacrifice. C'était pas en dépendance de la foi. Tandis qu'ici, c'est en dépendance de la foi. C'est directement dans la lumière de la foi des justifications, la place du sacrifice. C'est très différent. Oui. C'est un sacrifice qui, pour ça, je dis vraiment, à la différence d'Abel, qui est l'aspect le plus fondamental du cœur de l'homme, qui même après avoir péché, demeure religieux. Le péché n'a pas supprimé cette attitude religieuse d'Abel vis-à-vis de Dieu. Il a fait. Ici, Abraham est déjà justifié, alors on le comprend. Mais il faut donc bien saisir ces deux aspects-là, ces deux plans tout à fait différents. Hein. Le plan d'Abel, c'est un plan radical pour nous faire comprendre que le sacrifice est une chose naturelle, même après la faute. L'homme peut toujours offrir un sacrifice à Dieu, même après la faute. Mais pour pouvoir entrer pleinement dans ce que représente cette liturgie, alors il y a la foi. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Il gardien de France, comme le soleil se couchait. C'est très beau aussi, ça. La nature, vous voyez, dès qu'on a une liturgie sacrificielle, la nature est présente. Hein. Comme le soleil se couchait. Pensez à la mort du Christ sur la croix. Hein,
dès qu'il y a un sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est toujours le mystère de la croix qui est présent. Comme le soleil se couchait, une torpeur tomba sur Abraham. Et voici qu'une torpeur, une obscurité profonde tomba sur lui. Il a offert les animaux, mais vous savez bien, c'est propre justement de l'offrande des animaux. C'est quand on a des animaux, on s'offre soi-même. Hein? Quand on les coupe en deux, donc on doit s'offrir soi-même. On se coupe soi-même en deux. Hein? Sauf les petits pigeons qui restent sans être coupés en deux. Et le soleil se couchait, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'une torpeur, une obscurité profonde tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera pas à elle. On les asservira et on les accablera durant 400 ans. » Première prophétie douloureuse. Il y a des prophéties joyeuses, jusque-là c'est des prophéties joyeuses. La postérité, le pays qui sera donné... Eh bien ici, première prophétie douloureuse. Et cette première prophétie douloureuse est à l'ombre hein, du sacrifice. Elle est à l'intérieur du sacrifice. Comme le soleil se couchait. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour. Après quoi, ils partiront avec de grands biens. Quant à toi, tu t'en iras en paix vers tes pères. Tu seras enseveli en une heureuse vieillesse. Ça, ça fait partie d'une béatitude, hein. D'avoir une heureuse vieillesse et puis être enterré avec ses pères, c'est... on ne peut rien souhaiter de mieux. C'est la fin d'Abraham. Point de vue religieux, c'est merveilleux. Ce n'est qu'à la quatrième génération, ce n'est qu'à la quatrième génération que reviendront ici. Car, jusqu'à présent, la faute des Amoréens n'est pas complète. Quand le soleil fut couché et qu'il fut noir, c'est bien dans ces pays, ça passe vite. Une espèce de brutalité, c'est pas de toutes les nuances d'ici. Quand le soleil fut couché et qu'il fut noir, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux des victimes. Vous voyez le feu du ciel qui descend. Hein? Ça, c'est une idée qui revient constamment. Hein? Le sacrifice est une offrande de nous-mêmes à Dieu. Et c'est un appel vers Dieu. C'est un cri vers Dieu. La vraie réponse de Dieu, c'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel, le fameux sacrifice d'Élie, hein? Au Mont Carmel. C'est très net. Et déjà ici, c'est présent, hein? Comme le soleil se couchait, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, sache-le bien, ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera pas à elle. On les asservira, et on les accablera durant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, après quoi ils partiront avec de grands biens. Quant à toi, tu t'en iras en paix vers ton père, tu seras enseveli en heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération que reviendront ici, car jusqu'à présent, la faute des Amoréens n'est pas complète. Quand le soleil fut couché, et qu'il fit noir. Voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux des victimes. En ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, j'ai donné ce pays, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Les Kénites, les Kénivites, les Cadmonites, les Hittites, les Pérusites, les Raphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Guirgachites et les Jébuséens. Alors vous les avez tous, hein. Alors vous voyez, ça c'est le plaisir, hein. Pour les exégètes, c'est un plaisir énorme. Il faut retrouver tout ça, c'est évident, c'est un intérêt très grand, ça. Il faut essayer de préciser, de voir ce que ça représente, de voir ce qu'il y a d'historique dans ce point de vue-là, parce que c'est dit, à ta postérité je donnerai ce pays, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. C'est intéressant de voir, c'est le grand fleuve, pas l'Euphrate. Alors on montre tout ce qui est impliqué dedans. Alors, ce qui nous intéresse au point de vue théologique, il y a des intérêts différents, vous voyez, c'est ça qui est un... On peut avoir l'intérêt historique, et puis on peut prendre l'intérêt théologique. C'est ce que je cherche ici avec vous, essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'alliance. Que représente cette foi qui justifie, cette foi dans laquelle, de fait, il y a ce lien avec Dieu, ce lien qui se fait par Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative, et c'est Dieu qui prend l'initiative, et c'est Dieu qui veut qu'un être humain lui soit lié dans un sacrifice. Et je crois que c'est ça que nous devons saisir, la présence de Dieu à travers ce sacrifice. Alliance, sacrifice, présence. Je crois qu'il y a là quelque chose que nous retrouvons constamment. Alliance, alliance dans la foi. Alliance dans la foi, sacrifice, commandé par Dieu, une liturgie sacrificielle, c'est bien évident, et une présence. Qui est la conséquence immédiate. Vous voyez que la présence se manifeste à travers le feu. Quand le soleil fut couché, qu'il fit noir, voici qu'un four fumant et une torche de feu passaient entre les morceaux de vie. En ce jour-là, il avait conclu une alliance avec Abraham en ces termes. Donc vous avez là quelque chose qui est très très important, une alliance d'amour. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Alors, le petit drame familial, vous voyez, deux dimensions d'Abraham, toujours, hein, même plusieurs, mais les deux grandes dimensions, la dimension familiale, les petites histoires familiales, déni de Dieu, hein, Dieu intervient là-dedans, c'est bien évident, c'est la dimension de la famille qu'on doit voir dans la lumière de Dieu, et puis la relation de l'alliance avec Dieu, donc du sacrifice. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Or, elle avait une esclave égyptienne qui s'appelait Agar. Saraï dit à Abraham, « Vois, Yahvé, m'a empêché d'enfanter. Va donc vers mon esclave. Peut-être, par elle, aurai-je un enfant. » Et la médiation. Et là, pour nous, c'est plus tout à fait comme ça, tu vois. Mais selon les traditions religieuses et pieuses, mais c'est tout à fait béni de Dieu. Tu vois, là, il y a des petits changements, tu vois. La foi substantiellement est la même, le foyer n'est pas tout à fait substantiellement la même. Il y a des différences. Mais c'est très beau de voir ça, c'est extraordinaire de voir que c'est Saraï hein, qui accepte, voit Yahvé m'empêcher d'enfanter. La stérilité dans l'Ancien Testament est toujours considérée comme une conséquence du péché. L'antifécondité, vous voyez. La famine, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a tout le grand thème de la fécondité et de l'antifécondité. Et l'antifécondité, c'est justement la stérilité. Conséquence du péché. Vois, Yahvé m'a empêché d'enfanter. Va donc vers mon esclave. Alors, c'est beau de la part de Saraï. C'est un beau mouvement. Vous voyez ? Elle ne veut pas qu'Abraham souffre de cette conséquence qu'elle n'a pas d'enfant. Et selon les lois du temps, l'esclave peut passer devant. Mais voyez bien, hein ? Peut-être par elle aurais-je un enfant. Elle sera mère par l'intermédiaire de l'esclave. Abraham écouta l'appel de Saraï. Et 10 ans après qu'Abraham s'était établi au pays de Canaan, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Vous voyez, petit drame de famille. Hein? C'est très beau, ça. C'est extraordinaire de voir ça. Elle a quelque chose que sa maîtresse n'a pas. Quelque chose d'infiniment précieux. Elle est féconde. Elle a un fils. D'Abraham. Ça vaut le coup. D'Abraham, hein, c'est quand même quelque chose, tandis que la maîtresse, quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai, dit Abraham, que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. Alors ça, c'est les cinq colères de Sarai. Hein. C'est des colères. Hein. Que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis mon esclave dans ton sein. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. La dignité de Sarai disparaît complètement. Que Yahvé juge entre moi et toi. Pas commode, hein. Sarai, elle a du caractère, mais elle n'est pas commode. Abraham dit à Sarai, voici ton esclave entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semblera. Il est sage, Abraham. Il sait très bien que dans les querelles de jalousie, traiter sans sang. Hein. Rien à faire là-dedans. Voici ton esclave entre tes mains. Ton esclave entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semblera. Alors Sarai l'humilia. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Non, on prend un exemple de charité fraternelle. C'est pas tout à fait ce qu'il faut, tu vois. Mais justement, la foi n'a pas encore réalisé ça. Vous voyez encore une fois de plus la pâte humaine qui n'est pas transformée par la foi. Sarai a une foi. Abraham a la foi, Sarai a la foi, l'esclave a nécessairement la foi, surtout sa foi, foi familiale, mais ça n'a pas transformé la pâte. S'enfuit loin d'elle. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, la source qui est sur le chemin de Kour. Il dit, Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle ne sait pas où elle va, elle fuit. Ça, c'est tout à fait l'exemple merveilleux de la fuite. Quand vous fuyez, vous savez d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. Ça, c'est une fuite stratégique. Alors, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de Yahvé lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous ses mains. Dieu donne raison à Sarai. Quand l'ange est là pour lui dire qu'il faut faire ça. L'ange de Yahvé lui dit, je multiplierai ta postérité au point qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse.